Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Et bonjour à nos auditeurs, nos auditrices, merci d'être à l'écoute de 48FM pour ce Théma spécial 8 mars, une date qui résonne particulièrement dans notre calendrier puisqu'elle marque la journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale dédiée à cette journée qui, bien au-delà d'une simple commémoration, est l'occasion de dresser un bilan des avancées mais aussi des défis qui persistent sur le chemin de l'égalité et enfin de tout ce que vous allez pouvoir retrouver en Lozère ce week-end et au-delà, car c'est important que chacun se mobilise et puisse prendre part aux manifestations. Alors, des usines textiles de New York où des ouvrières se sont révoltées en 1857 au mouvement MeToo et Balance ton porc qui ont libéré la parole des femmes à travers le monde, cette journée s'inscrit dans une longue histoire de lutte et de conquête, une histoire faite de courage, de détermination, d'espoir. Et justement, durant cette heure, nous donnerons la parole à celles qui œuvrent quotidiennement pour l'égalité des genres, pour le droit des femmes, avec en premier lieu Charlotte Simon, la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité à la DDETSPP. Bonjour Charlotte.
Bonjour Ludovic.
Nous avons Marielle du planning familial qui est là. Salut Marielle.
Bonjour.
Claire du Centre d'information pour le droit des femmes et des familles.
Salut Ludo.
Et Nathalie du collectif Égalité Femmes-Hommes 48.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. La journée internationale des droits des femmes 2025 aura pour thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Alors j'ai appris qu'il y avait un thème, je ne savais pas jusqu'à présent. Pour commencer cette émission, donc, on peut rappeler un peu l'origine de cette et l'origine historique du 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. Alors je l'ai rapidement évoqué dans cette introduction, on part à New York. Mais Claire n'est pas d'accord, mais c'est bien, de toute façon elle n'est jamais d'accord avec moi, et c'est pour ça qu'on l'invite. Le 8 mars 1857, où un long cortège de femmes misérablement vêtues envahit les rues de New York pour réclamer elles aussi la journée de 10 heures, des pièces claires et saines pour le travail, des salaires égaux à ceux des tailleurs. Alors ça c'est ce que l'on croit, car ce n'est pas la véritable histoire et le début du 8 mars, Claire, non ?
Et bien en fait, il y a plusieurs versions et aujourd'hui, les historiens et les historiennes ne sont pas tous et toutes d'accord à ce propos. On a longtemps parlé de cette date dont tu parles, de 1857, et du fait que ça partait des États-Unis. En fait, ce qu'on a de plus factuel aujourd'hui, c'est que c'est en août 1910, à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, et à l'initiative de Clara Zetkin, je vous invite à retenir ce nom, donc Clara Zetkin, une militante allemande, c'est à cette occasion-là qu'a été prise la décision de célébrer les femmes. Alors, à l'époque, on avait le droit de dire « journée des femmes ». Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Donc, à ce moment-là, en fait, quand c'est décidé, il n'y a aucune date fixe. On ne parle pas du 8 mars, il n'y a pas de date. Le seul principe reste, c'est-à-dire on mobilise les femmes, alors là, je vais la citer directement, « en accord avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat dotées de la conscience de classe ». Parce qu'en fait, Clara Zetkin, ce n'était pas seulement une bataille pour les femmes, c'était aussi une bataille pour les femmes des classes populaires en réaction aux batailles des femmes de classes un peu plus aisées.
Donc, c'était un peu le cas à New York aussi, c'était des femmes populaires.
Ce qui était un petit peu, ouais. Mais en fait, du coup, c'est resté populaire, et tu verras par la suite, quand on parle de la date du 8 mars, c'est aussi une origine populaire. Donc à ce moment-là, en 1910, pas de date, pas de 8 mars. Donc pourquoi le 8 mars ? Eh bien, au départ, on a pensé pendant très longtemps que c'était par rapport au 8 mars 1857. Mais il se trouve qu'en fait, cette manifestation des ouvrières du textile, il n'y a aucune preuve de cette manif-là. Il n'y a aucune vraie preuve qu'il y a eu une manifestation ce jour-là. D'accord ? Donc en fait, les historiens ne trouvent rien. Ça a été relayé par la presse, par des groupes féministes, etc. Mais en fait, il n'y a aucune preuve. Et au final, plutôt...
Si ça a été relayé, il y a quelques preuves de presse et de groupes féministes.
Finalement, non, en fait. Elle n'a pas été déclarée. Donc on ne sait pas. Et donc la deuxième hypothèse qui est défendue par Françoise Pic, une historienne, c'est qu'en 1917, et là, on ne va pas aux États-Unis, on part en Russie, donc un petit peu plus loin, les ouvrières, donc on repart avec des ouvrières, les ouvrières russes ont manifesté à Saint-Pétersbourg pour réclamer...
Hein? 24 février, je crois, 25.
Et bien là, moi, j'ai le 8 mars.
8 mars, d'accord.
Effectivement, donc elles ont manifesté à Saint-Pétersbourg. On vous laissera regarder et lire Françoise Pic.
Ouais.
Donc elles ont réclamé la fin de la guerre et elles ont surtout réclamé des meilleures conditions de vie. A priori, cette manifestation-là, elle a participé au début de la révolution russe et ça a été quand même un tournant historique dans l'histoire de la lutte pour les droits des femmes. Donc la nouvelle hypothèse, on va dire, enfin, en tout cas la nouvelle version, notamment par l'historienne Françoise Pic, c'est que c'est plutôt cette date-là qui a servi de référence au 8 mars spécifiquement. D'accord ? Donc en fait, voilà. Les historiens et les historiennes se posent encore la question, mais on vous laissera aller faire votre petite recherche. Après, la date du 8 mars, on fait un gros avance rapide dans le temps, puisque finalement, elle est officialisée par les Nations Unies qu'en 1977. Et là, les Nations Unies, elles la déclarent officiellement comme la journée internationale des droits des femmes, et les Nations Unies encouragent tous les pays à la célébrer. Nous, on attend encore quelques années. On attend jusqu'à 1982 avec Yvette Roudy, ministre des droits des femmes, qui l'officialise en France. Donc, on a mis un petit peu de temps.
On met toujours du temps.
Oui.
Voilà, mais c'est bien parce que je voulais te lancer sur l'origine du 8 mars. J'ai dit, tout le monde le sait d'où ça vient. Je vais quand même pas faire cet affront à Claire et moi, je vais annoncer cette belle manifestation à New York. Et bien, voilà. C'est bien fait. Alors oui, on est toujours en retard. Donc si je reviens sur New York 1957, il faudra attendre 50 ans pour qu'il y ait une répercussion en France. 1907, les femmes peuvent dépenser leur salaire comme elles le veulent. Plus besoin de demander l'autorisation à leur mari comme avant. Alors il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, la loi les considère encore comme des mineurs, comme des enfants, les femmes. Autre date, c'est important, 1944, le droit de vote. Elles peuvent voter et être élues. Et à partir de 1965, elles travaillent où elles veulent sans que leur mari donne son accord. Alors, ça, je ne savais pas. Jusqu'à 1965, elles ne pouvaient pas travailler où elles voulaient.
Il fallait demander l'autorisation de son mari. Mmh. On était encore pas mal sous sa responsabilité légale.
Et également pour ouvrir un compte bancaire.
Ouais. Ok, en plus.
Et le premier chèque signé par une femme, je crois que c'est 1965 ou 1966.
Et oui, si elle pouvait pas ouvrir de compte bancaire, c'est ça. D'accord, très bien. Chérie, je peux travailler au CDFF ? Non.
Non, pas trop.
Ok, bah écoute, c'est bien. Il y a d'autres dates importantes. Vous souhaitez en mettre en avant tant qu'on est dans des dates ? Vite, Nathalie.
Non, c'est un domaine peut-être qui est plus le domaine de Claire et de Clara.
Marielle.
Voilà, raté. Tout ce qui a trait au droit sur le viol, sur le droit à disposer de son corps, hein, donc les dates de 75 avec Simone Veil. Mais bon, c'est un domaine qui est plutôt le domaine du planning, donc je ne vais pas trop rentrer sur ce terrain-là.
75 qui est souvent menacé, hein, ce droit à l'IVG, faut le rappeler aussi.
Oui, et d'ailleurs, il y a quand même une date importante qui est le 8 mars 2023 avec la constitutionnalisation justement de l'IVG qui était... l'année dernière, surtout quand on voit comment ce droit est menacé dans le monde et aussi parfois en France. Donc, et on est un des premiers pays à faire ça, à inscrire le droit à l'IVG dans notre constitution.
On n'est pas toujours en retard.
Voilà, mais c'est bien, il faut le dire aussi.
Il faut aussi signaler quand ça se passe bien.
Voilà, absolument, et c'est une bonne chose. On va arriver sur 2025. Alors, sur le rapport 2025 sur l'état des lieux du sexisme en France, donc je me suis assez basé sur ce rapport qui donne beaucoup d'informations et qui montre par exemple les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes qui perdurent, qui sont plus fortes et notamment perçues dans le monde du travail. Pour 76% des personnes interrogées, on va balayer un peu tous les domaines, on va parler de beaucoup de choses. Voilà, j'ai pas de plan réellement établi. On va peut-être commencer par le travail. C'est un des gros points noirs, le travail, les problèmes de différence salariale.
Alors, je prends la parole rapidement. Alors, c'est un des points noirs. Je n'ai pas forcément envie de dire c'est le gros point noir parce qu'en fait, la problématique même du sexisme, c'est que c'est partout, tout le temps et dans les détails. Donc, ne cibler que le travail, ce serait dommage. Mais effectivement, le travail, le sexisme au travail est une conséquence du sexisme global et généralisé. Et quand tu parles des différences de traitement, ce qui est encore très fort aujourd'hui et qu'on voit notamment dans le rapport dont tu parlais, c'est toujours les différences de conception. C'est-à-dire que la façon de penser les femmes et les hommes, quand tu regardes les rapports, même chez les jeunes aujourd'hui, on a tendance à dire oui, ça évolue, les jeunes d'aujourd'hui. Pas tellement, voire au contraire, presque. Donc il y a toujours de grands écarts dans la perception de comment, même sans m'en rendre compte, je conçois un homme ou une femme et du coup comment je module ma relation professionnelle, personnelle, ma relation à l'espace, etc. avec les autres personnes. Donc oui, dont le travail.
Marielle, Charlotte.
Je dirais qu'il y a aussi la question de la maternité. Enfin, on est quand même en 2024 et pour autant, ça reste quand même un frein à la carrière des femmes. Soit parce qu'elles choisissent de commencer, d'avoir des enfants. Même si elles ne le choisissent pas, elles resteront stigmatisées tout du long de leur carrière par rapport à ça. À savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous aurez envie d'eux ? Et du coup, c'est quand même un frein, que ce soit conscientisé ou pas, que ce soit réalisé ou pas, ça reste un frein. Et après, ça veut dire aussi souvent des interruptions de carrière. Donc même si on est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui se mobilisent, d'hommes aussi, sur ces combats-là féministes, qui est que égalité au niveau de la parentalité, on voit bien que dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Et donc on va interrompre la carrière, ce qui veut dire qu'on va moins travailler, à un taux souvent moins élevé, on va avoir moins de responsabilités au travail, et à la fin on aura une retraite plus basse. Et aussi les écarts de salaire, souvent on pense, les femmes sont moins payées. Parfois elles sont payées aussi bien que les hommes à travail égal, même si c'est pas systématique. Mais souvent, ce que l'on ne voit pas, c'est que même si elles sont payées à salaire, sur un taux égal, en fait, elles vont perdre des points, elles vont perdre de l'argent pour leur vieillesse et pour leur retraite, parce qu'elles auront eu des interruptions de carrière. Et qu'elles pourront pas avoir des évolutions autant que des hommes qui n'auront pas eu d'interruption. Et contrairement, c'est valorisé pour un homme, par contre, qui, lui, a des enfants.
Il y a même des promotions, parfois, pour les futurs papas. Là où la maman s'arrête et va gagner moins de salaire, il y a des hommes qui se voient proposer une promotion et qui, eux, vont augmenter en salaire.
D'accord.
Effectivement, c'est assez contradictoire, parce que, alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, et ça, c'est des chiffres de l'INSEE qui sont sortis en mars 2024, elles sont quand même moins en activité, souvent dans des temps partiels, 3 fois plus de temps partiels pour les femmes. Des temps partiels qui ne sont pas choisis, ça, on est d'accord. Et puis, en plus, elles sont aussi sous le seuil de pauvreté, parce qu'en situation de monoparentalité également. Donc, seules à travailler, et d'où les temps partiels, et donc des rémunérations plus faibles.
Et une problématique qui est un peu plus pensée aujourd'hui, ou en tout cas qui est un peu plus parlée par rapport aux femmes, tu parlais du coup de la parentalité, et toi aussi Marielle, il y a aussi la situation d'aidance. Il y a énormément d'aidants familiaux, il y a une grande majorité d'aidants familiaux qui sont des femmes, donc là c'est pareil, c'est je mets un peu ma vie professionnelle, ma vie personnelle de côté pour aider quelqu'un de ma famille, conjoint, conjointe, un parent, un enfant, etc. Et ça repose encore très majoritairement sur les femmes qui reprennent là un petit peu un coup de sabot, entre guillemets, sur leur carrière globale et sur leur salaire final et sur leur retraite.
La santé, c'est le domaine des femmes.
Pour l'instant, c'est encore vu majoritairement. Ce qu'on appelle effectivement les métiers du care, on est encore quasiment à 80-20, quoi. 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc non seulement il y a des désavantages, entre guillemets, au fur et à mesure sur sa carrière, il y a aussi des discriminations à l'embauche, d'accord ? Parce que, comme disait Marielle, on les attend au tournant sur des grossesses, même pour celles qui n'en voudraient pas. Et puis il y a aussi des discriminations par rapport à leur genre, selon les métiers qu'elles veulent envisager de faire. Et là, les hommes peuvent être victimes aussi quand ils vont dans des métiers qui sont attendus sur le féminin. Il y a encore des métiers qu'on attribue aux hommes, des métiers qu'on attribue aux femmes, et sur lesquels, on fait un peu coincer certaines candidatures par rapport au genre.
Justement, sur les métiers, il y a un concours qui est lancé, Femmes et Entreprendre.
Oui, effectivement, pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes et donc leur autonomie économique et professionnelle. Il y a la deuxième édition du concours Sans une femme entrepreneur qui a été lancée donc ce matin par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, avec la possibilité de postuler jusqu'au 4 avril pour des femmes qui pourraient bénéficier du coup d'un accompagnement dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Ça a eu lieu la première fois l'année dernière, et ça a permis de créer un réseau important aussi d'entraide, de sororité entre ces femmes-là, avec de l'accompagnement par des structures spécifiques sur la création d'entreprises et de l'accès aussi à des sources, des microcrédits, de l'aide sur le volet financier, parce que c'est aussi ça, souvent le frein pour les femmes qui veulent créer ou reprendre une entreprise, c'est qu'on leur octroie moins facilement des prêts qu'à des hommes.
Au niveau des métiers masculins, féminins, on en a parlé rapidement. Je me rappelle, l'an dernier, j'étais venu faire un reportage sur le métier de jointeur avec le CIDFF sur Florac, l'entreprise Lozère Isolation, il me semble. Voilà, ça, c'est des actions aussi qui se font, mettre des femmes sur des métiers dits masculins pour montrer qu'elles sont autant capables. Et en plus, c'est un endroit où on est en recherche de personnes pour y travailler.
Clairement, ce sont des métiers en tension, en plus, donc d'où l'intérêt aussi d'y faire accéder les femmes. Et puis, c'est aussi des métiers qui sont parfois plus rémunérateurs que les métiers du soin. Donc l'idée, c'est aussi que les femmes soient rémunérées mieux, en fait. Et en effet, il y a l'idée de refaire peut-être cette action cette année dans un secteur également masculinisé. Donc on pensait par exemple à tout ce qui était espace vert, entretien d'espace vert, où on recrute beaucoup en Lozère. Donc c'est une perspective qu'on a aussi avec le club Lozère, les entreprises s'engagent et le CIDFF.
Ah bah tu nous diras, comme ça on relancera. Et quand je parlais de la santé du soin, domaine des femmes, je parlais au sein du foyer, moi. Je parlais pas au soin, même si c'est dans les métiers.
Ben les deux. C'est-à-dire que les femmes sont attendues sur les deux, de manière générale. Alors, je dis les femmes de manière générale, les femmes sont attendues sur les deux. Donc, il y a plein de petites choses. Après, si on parle du domaine du travail, il y a le sexisme vécu au quotidien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été embauché, une fois qu'on est au travail, il y a encore des ambiances parfois qui sont très sexistes, qu'on soit dans un métier dit masculin ou pas. D'ailleurs, il y a des endroits qui sont très mixte et pour autant il y a plein de choses qui sont banalisées, des remarques, des blagues, des gestes qui sont tout à fait banalisés encore aujourd'hui. Donc l'intérêt c'est aussi de venir dire l'égalité, c'est aussi l'égalité des chances d'être tranquille, d'être serein, de se sentir en sécurité sur son lieu de travail comme dans la rue. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure des espaces. Donc il y a aussi cet aspect-là. Le sexisme, ça grignote aussi l'égalité puisque ça grignote l'égalité de sérénité, si je peux le dire comme ça, quoi.
Oui, c'est pas que dans le travail, ça, l'image de la société, ces remarques. Oui, Nathalie.
Oui, moi j'aurais voulu aussi intervenir sur la nécessité de reprendre ça à la base. C'est-à-dire que là, on sait que le programme EVARS va arriver dans les écoles. Enfin, il était attendu. C'est-à-dire qu'il y avait obligation de 3 heures d'enseignement d'éducation sexuelle dès la sixième. Mais ça commence pas à la sixième, ça commence beaucoup plus jeune. Et par exemple, par les albums jeunesse. On a un vrai problème avec les albums jeunesse dans notre pays, alors peut-être ailleurs aussi, mais en tout cas, on va se focaliser sur la France, où on inculque déjà des différences liées au genre, au sexe, où les albums, les petites filles sont beaucoup moins présentes en tant que personnages majeurs. Et quand elles sont présentes, elles sont cantonnées dans des rôles très féminins ou féminisés qui sont liés à des siècles d'acculturation, parce qu'on en est quand même là. Donc il est temps maintenant aussi qu'on valorise des albums jeunesse qui sortent de ce schéma-là.
Oui, parce que ça évolue quand même, il faut le dire.
Ça évolue. Il y a des maisons d'édition qui s'émancipent, parce qu'il faut aussi faire ça. C'est-à-dire que les maisons d'édition qui ont pignon sur rue, non. C'est des albums qui sont très dans le moule. Hein. Maintenant, on a des missions d'édition comme Talent, je vais y arriver. Voilà, Kaléidoscope. Enfin voilà, où on sort un petit peu justement de ces schémas-là. Et c'est très intéressant qu'en parallèle de ce qui est en train de se faire au niveau institutionnel, on puisse permettre de donner des outils dès la petite enfance, dès les crèches. Dans les crèches aussi, il y a un super travail qui est fait à Toulouse. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur la façon d'aborder les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Ça aussi, c'est important. Et c'est en partant de la base et qu'on pourra peut-être changer des schémas culturels, parce que c'est vraiment des schémas culturels qui s'installent dès le plus jeune âge. Et on parlait des rapports du Haut Conseil à l'égalité, qui le dernier rapport est effrayant. On a encore des jeunes de 24 à 35 ans, je crois, qui ont une vision du rôle de la femme, du rôle de chacun d'ailleurs, pas que de la femme, dans le couple, de la place de la femme. Alors place, je sais que c'est un mot qui est sujet maintenant à discussion, parce que la place, c'est celle qu'on nous attribue, c'est pas celle forcément qu'on veut aller chercher, c'est un système aussi qui nous l'a attribué, mais on va parler simplement. Donc effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à casser ces stéréotypes liés au genre et de permettre que chacun s'émancipe et s'affirme là où il veut. On parlait tout à l'heure des métiers, mais avant les métiers, il y a l'orientation et les filières. Et là aussi,
j'ai tout un volet éducation qu'on va pouvoir évoquer.
Il y a plein de choses à dire.
Et juste le programme dont tu parlais, Nathalie, de Toulouse, c'est Égalité Crèche.
Oui,
il y a des personnes qui veulent aller voir ça.
Et c'est super. Ils ont vraiment fait un super travail.
C'est édifiant.
Après, sur les livres qui sortent actuellement, on ne retrouve plus la mère de Boulébile qui reste cantonnée à la cuisine, j'imagine.
On en trouve encore. Si, on en trouve encore. Et là où on voit qu'il faut toujours faire très attention, alors là, je sors un peu de la France, mais c'est que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis en moment où ils ont censuré justement des centaines de livres qu'ils interdisent dans les écoles, c'est bien la preuve que ça passe par là aussi, puisque c'est ça qui leur fait peur. C'est-à-dire que dans un pays, on autorise les armes, mais on interdit tout livre qui parle du genre, ne serait-ce que le fait de parler du genre ou d'aborder le moindre sujet un peu LGBT, c'est banni.
Dès que certains mots apparaissent.
Dès que certains mots apparaissent, le livre est censuré, interdit dans les écoles. Donc on sent bien que c'est un sujet.
Sans partir dans un autre pays, enfin moi j'ai une collègue déléguée dans un département que je ne citerai pas,
mais en Haute-Loire.
Ouais, voilà.
non, je sais rien.
Non, c'est en Occitanie, donc voilà. Où les livres de la bibliothèque municipale, sur tout ce qui était l'égalité filles-garçons, sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, sur le fait de connaître son corps, etc., ont été retirés en fait de la bibliothèque municipale. Donc ça pose quand même question.
Ça fait peur.
Qui a demandé à retirer ces livres?
C'est la municipalité. Oui, donc où la déléguée donc est en difficulté avec cette commune pour travailler sur ces sujets en fait. Hein.
Après on disait que le programme EVAR s'est sorti, mais il faut voir le contrepoids, le contre-pouvoir, le contre-pouvoir même qui va y avoir, ouais. Qui se met en place avec des résistances de la part de parents qui interviennent de façon très 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 visible et décomplexée. Donc et rien n'est jamais acquis.
Et c'est avec la diffusion de fausses informations aussi, fait, hein, on voilà, entend que le programme va apprendre aux enfants à faire des fellations. Voilà, excusez-moi pour le terme, mais des fausses informations graves, en fait, hein, qui sont
véhiculées. Oui, alors que la plupart des parents ont envie que leurs enfants...
Voilà, c'est ce qui m'a étonné.
L'éducation à la sexualité.
Sur le Haut Conseil à l'égalité, au niveau de l'éducation à la vie affective et sexuelle, donne un chiffre. 9 Français sur 10 soutiennent l'instauration de cours à l'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors moi, je trouve ça énorme. J'imaginais qu'il y avait plus de personnes...
C'est une bonne nouvelle, parce que comme souvent, c'est ceux qui sont en colère qui font le plus de bruit.
Oui, c'est ça, c'est une minorité qui occupe l'espace médiatique et public avec la diffusion de fausses informations.
Qui maîtrise très bien les réseaux sociaux, comme les anti-IVG, en fait. C'est les mêmes techniques...
C'est très organisé.
De communication.
Et je pense qu'il y a un vrai souci, effectivement, dans le relais de ces informations-là. Parce que relayer qu'il y ait des opposants, c'est bien, mais déconstruire leur contre-argumentation fausse, ce serait nécessaire. Mm. Et ça, ce n'est pas forcément fait. Donc, le programme EVARS, très très bien, mais il va falloir accompagner les professionnels, leur donner la possibilité de faire leur travail véritablement dans un cadre légal. Parce que c'est ça qui est important. Mm.
Alors justement, là, on parlait, avant de donner d'autres chiffres avec Charlotte qui sont sortis par l'INSEE, on va parler de cette polarisation, parce que c'est un des constats du rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité, deux constats, des inégalités sociales et économiques très nettement persistantes, donc ça, on peut en reparler, on a dit un mot, et une polarisation sociale autour des enjeux d'égalité de genre, notamment dans les médias et les discours politiques. Alors quand on parle de cette polarisation, bien sûr, on voit que les discours sexistes et masculins ont gagné en visibilité, notamment dans les médias. Et qu'on dit ça, on pense forcément tout de suite aux États-Unis. Et est-ce que ce n'est pas aussi le cas en France ?
Moi, j'ai envie de te dire que c'est le cas partout. Alors, j'invite les auditeurs et les auditrices. Il y a un livre qui est très bien écrit, qui en parle vraiment très bien et qui est facile à lire, de la journaliste Pauline Ferrari, qui a écrit un livre qui s'appelle « Former à la haine des femmes » et qui explique très bien, justement, comment ça passe dans les médias, notamment aussi sur Internet, et comment les réseaux masculinistes sont organisé. C'est-à-dire que c'est vraiment un réseau. Des fois, quand on parle de réseau, on pense le réseau de la drogue, le réseau de la prostitution, hyper bien organisé, politique, avec de l'argent derrière et tout ça. Et ben, il faut voir qu'en fait, le masculinisme, c'est la même chose. Il y a un réseau, il y a de l'argent, il y a des programmes, et c'est fait pour faire beaucoup de bruit, pour prendre beaucoup de place, et de plein de manières différentes. Et là où ça devient compliqué, c'est qu'une des manières d'atteindre le public, et notamment le public jeune, ça va être par exemple les vidéos de coachs en séduction, qui, sous couvert de regarder comme j'ai du succès, je suis beau, je suis riche, etc., vont donner des conseils très précieux aux jeunes garçons qui vont être, eux, un peu paumés dans l'adolescence sur comment draguer les filles. Et en fait, quand on lit vraiment entre les lignes, c'est pas comment séduire une femme, c'est comment manipuler les femmes et comment les sous-traiter. Et une femme qui parle trop, c'est une femme qui n'est pas mariable. Et une femme qui a un body count, c'est-à-dire qui a trop eu de relations avec des hommes avant, elle n'est pas mariable, elle n'est pas respectueuse. Et si jamais tu as le malheur d'être trop sympa avec ta compagne, elle ne va plus te respecter, et tu vas être une serpillière, etc., etc. Donc en fait, là, c'est des modèles. Hein. Ces mecs-là sont des modèles qui sont très enviables parce qu'ils ont l'air d'être dans la richesse et dans la réussite. Ils font passer des messages vraiment de manipulation et de haine envers les femmes qui sont très problématique. C'est-à-dire que du coup, toutes les couches de la société peuvent être touchées par ce message. Il y a la presse, il y a les réseaux Internet, il y a plein de choses et tous les âges sont concernés.
Après, ce qui est intéressant quand même aussi sur les réseaux, on a cependant là, mais ce qui est intéressant, je trouve, depuis quelques temps, c'est qu'on a des hommes qui prennent le contre-pied de ces messages masculinistes en les démontant. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de dire « Ouh là là, ils sont vilains, c'est pas nous, on ne veut pas leur ressembler. » Mais ils disent « Mais nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent. Et regardez, ça, c'est pas vrai. Ça se démonte, ça. » Et de façon un peu humoristique, ce qui fait que le message, je trouve, peut-être avec mon âge, passe bien, passe presque mieux, parce que justement, ils ne sont pas en train d'enfoncer le clou et de mettre en avant des vérités qui n'en sont pas. Au contraire, ils prennent vraiment le contre-pied, et c'est des garçons. Alors, les femmes le font, et beaucoup avec le ton de l'humour, ce qui est très très bien. Mais le fait qu'il y ait aussi des hommes qui prennent ce temps-là et qui le fassent sur les réseaux, parce que je pense que le pire pour l'instant, c'est les réseaux. Parce que c'est un écran et c'est tout. Et là, il n'y a pas d'échange.
C'est pas accompagné, c'est pas accompagné.
Y a pas, voilà. Et là, on sait bien que nos jeunes, parce que c'est, moi je reviens toujours au point de départ, c'est-à-dire nos jeunes, ils ne sont pas accompagnés. Ça, c'est sûr. Quand on voit le temps qui passe derrière des écrans, là, il y a un vrai danger. Donc après, à ceux qui sont autour, d'accompagner, déconstruire. Mais le fait que ça soit des pères qui le fassent, c'est drôlement intéressant, ça.
On vous conseille Thomas Pied, notamment, et Axel Latueda, qui sont super...
Oui, Thomas Pied, c'est génial.
Thomas Pied et Axel Latueda, ouais, qui sont super sur les réseaux. Ouais. D'autres modèles masculins voilà, un peu plus agréables.
On a l'impression quand même que les franges féministes et masculinistes se radicalisent.
Ben en fait, ça, c'est une réaction à... Alors, je reparle, mais s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole. C'est ce qui est appelé aujourd'hui le backlash, c'est-à-dire que quand il y a un groupe, justement, qui va dire ben, « Nous, en fait, on en a marre d'être maltraités, minorisés, etc. etc. » et qui va commencer à dire « Nous, on voudrait l'égalité, c'est-à-dire qu'on voudrait les mêmes droits », ben, du coup, le groupe qui, lui, jusque-là, ne voyait pas de soucis, puisque c'est le groupe qui privilégie de ce système, eh ben, il va y avoir une espèce de réaction de retour de bâton, donc de backlash, pour dire « Oh là là, attendez, stop !» Donc en fait, il y a un truc qui s'est retourné, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce seraient les droits des hommes qui sont bafoués par les efforts des féministes. C'est-à-dire qu'on diabolise les féministes en disant en fait, elles veulent écraser les hommes. Sauf qu'en fait, de vouloir l'égalité, c'est pas la même chose. De vouloir être traité comme un humain, peu importe son genre, c'est pas la même chose de dire bah, « Nous, on veut prendre les privilèges et le pouvoir que vous avez depuis des centaines d'années. » Donc il y a une espèce de résistance à... ils ont l'impression qu'ils vont devoir renoncer à une liberté, alors qu'en fait, il faut juste renoncer à quelques privilèges. Parce que si on parle de privilèges, d'office, on parle pas d'égalité.
Et moi, je peux pas... vraiment, il faut que je m'oppose à ce que vous venez de dire... Parce qu'il n'y a pas une montée du féminisme, mais il ne faut pas opposer féminisme et masculinisme. Absolument pas. Claire a raison. Le féminisme, c'est quelqu'un qui demande enfin l'égalité.
Les une radicalisation. Hein. Je ne dis pas une montée,
oui,
voilà,
oui,
de se faire entendre qu'il faut être plus...
Ben, je ne pense pas. Je pense que le féminisme, il s'exprime par différents modes d'action et que ça a toujours été
pacifiste.
Et qu'il y a, voilà, il y a vraiment une base pacifiste à la base. Alors après, il y a des modes d'expression qui sont parfois un peu plus percutants et provocateurs. Mais est-ce qu'il ne faut pas ça? À un moment donné, la loi de 75, elle n'est pas arrivée parce qu'un jour, Simone Veil s'est réveillée parce que le président de la République lui a dit qu'il faut faire quelque chose pour mettre en avant les droits des femmes et parler de l'IVG. Il y a eu quand même tout le travail avant qui a été fait par les féministes. Et heureusement qu'on a la concordance de tous ces mouvements pour arriver à faire évoluer les choses, parce que ce que demandent les mouvements féministes, et je rappelle qu'il y a quand même des hommes dans les mouvements féministes, c'est qu'on arrive enfin à une situation d'égalité qui devrait être la norme. La norme, elle est là. Et le fait qu'on s'attaque à un pouvoir, forcément, il y a une résistance. Et là aussi, il y a de la fausse information. Donc, il faut faire attention à ne pas les opposer. Et je ne pense pas qu'il y ait une radicalisation des mouvements féministes. Ça a toujours existé, différentes formes de féminisme.
D'accord. Alors, c'était une question. Hein. Ce n'était pas un parti pris que je prenais.
Non, par contre, c'est une grosse stigmatisation assez forte des féministes et des combats féministes aujourd'hui. Et d'autant plus quand les combats sont inclusifs. J'ai l'impression qu'on les stigmatise encore plus. Plus on va demander d'inclusivité, plus on va combattre, on va mélanger, enfin on va avoir un combat intersectionnel, c'est-à-dire on va être en faveur des minorités, de genre, de race, de classe. Encore plus ces combats-là vont être stigmatisés. Et je crois que vraiment le combat masculiniste, enfin le combat, je n'ai pas envie d'appeler ça un combat, mais
oui, c'est pas vraiment
les positions masculinistes sont vraiment encore plus à l'encontre de ce féminisme-là, qui est plus inclusif et intersectionnel.
Alors l'un des chiffres marquants aussi de ce rapport, 94% des femmes de 15 à 24 ans estiment qu'il est plus difficile d'être une femme aujourd'hui, soit 14 points de plus qu'en 2023, en deux ans. Voilà, 14 points de plus, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme et c'est ce qu'on disait. Hein. Moi, je pense que c'est aussi en rapport avec le fait qu'aujourd'hui, l'information, elle circule beaucoup plus vite, elle circule beaucoup plus loin, elle circule partout. On a accès à beaucoup d'informations et comme on l'a tout dit jusque-là, des bonnes et des mauvaises informations. Et du coup, peut-être que c'est aussi le contre-coup du fait qu'on en parle de plus en plus. Alors, il y a le côté bénéfique, on visibilise de plus en plus justement la volonté d'égalité, etc. Mais tout en visibilisant et en nommant les choses, eh ben, il y a quand même une prise de conscience et du côté des garçons et des filles. Et du coup, des fois, la prise de conscience, ben oui, ça peut être quand même une source de... Ok, en fait, j'avais pas réalisé que je vivais des trucs comme ça. Je m'étais pas rendu compte qu'en fait, là, c'était pas top ce qui m'arrivait, etc. Donc, je dirais que c'est pour le moment une étape. Moi, j'ai envie de penser que c'est une étape et que c'est le penchant de, ben voilà, on vous apprend à ouvrir les yeux, entre guillemets, et à y réfléchir. Et l'objectif, c'est quand même que plus tard, on n'ait plus à y réfléchir, que ce soit du réflexe et que le genre ne soit plus une question qui dirige nos vies, nos goûts, nos choix, etc. Mais pour l'instant, ça l'est encore. Donc, on est obligé de, entre guillemets, surverbaliser. Enfin, c'est pas qu'on verbalise trop, mais voilà, on est obligé d'en parler. Et du coup, la conscientisation, parfois, peut être un peu.
C'est comme les MeToo, hein, finalement.
Exactement.
Les MeToo, violences sexuelles, inceste. Ben, peut-être qu'il y a un MeToo un peu plus largement féministe où maintenant les minorisés, enfin les minorités de genre et les femmes osent dire en fait qu'il y a des problèmes, qu'elles subissent des violences et elles ont envie de d'affirmer cette révolte.
Après, il y a aussi un fort investissement des jeunes, parce que bon, on les a un petit peu blâmés là, plutôt par rapport aux écrans, et moi je suis toujours un peu gênée sur cette polarisation jeune-vieux, alors que bon, les jeunes reproduisent des schémas qu'ils ont vus. D'ailleurs, sur ça, il y a un livre très bien de Salomé Sacquet qui est « Sois jeune et tais-toi », voilà, qui est plutôt pertinent sur le sujet, et les jeunes aussi maintenant sensibilisent parfois leurs parents, leur entourage, enfin voilà, on le voit beaucoup, notamment sur les réseaux où ils disent « bon ben là, justement avec l'oncle raciste, sexiste, homophobe, j'ai fait du travail de déconstruction de stéréotypes. Donc les jeunes, ils sont aussi quand même, moi j'ai l'impression, beaucoup plus investis. Et grâce au réseau, en fait, ça permet aussi d'avoir conscience de certaines choses. J'ai eu une stagiaire de 3e l'année dernière, voilà, j'ai été vraiment épatée, et d'ailleurs certaines d'entre vous l'ont rencontrée, par son niveau élevé de conscience en fait, de tous ces enjeux.
Mais tu parlais de polarisation, et moi je rejoins effectivement Charlotte, c'est-à-dire que c'est ce travail de conscientisation qui fait que ça peut être difficile à accepter et qui fait que ça peut être malaisant, mais effectivement on a aussi une jeune génération qu'on voit se mettre en mouvement et bouger, et moi il y a des moments où au contraire j'ai beaucoup d'espoir de regarder cette jeune génération. Il y a des concours de vidéos contre le sexisme et tout, où ils ont une inventivité, enfin il y a des choses fantastiques qui sont réalisées. Donc je crois que même si on s'inquiète de la montée en puissance du réseau masculiniste, etc., on peut aussi regarder l'autre côté de la pièce qui a aussi du monde qui est là. Il y a aussi, alors on parlait tout à l'heure de contre-pouvoir, hein, parce que c'est quand même un peu un jeu de pouvoir des fois. Il y a aussi du monde qui est là pour défendre l'égalité. Il y a aussi plein de jeunes garçons et filles qui ont compris que tout le monde a à gagner à l'égalité, pas seulement les filles, mais les minorités de genre, mais les hommes aussi. Et donc, en fait, quand même, il y a de l'espoir.
Justement, vous intervenez dans les écoles, le CIDFF, le planning aussi. Vous voyez cette prise de conscience auprès des jeunes en Lozère ?
Oui, par rapport à ce qu'a dit Charlotte et Claire, clairement, c'est sûr, même si moi, je me remets... Dans ma vie de quand j'avais 15-16 ans, les discours que les jeunes tiennent aujourd'hui, je ne les tenais pas. Enfin, la vision un peu d'un futur plus égalitaire, d'une conscience de genre, des inégalités de genre, tout ça, je ne l'avais pas. Et en fait, c'est vrai que je pense grâce au réseau et aussi au travail qui a été fait par les anciens, une personne militante, en fait, il y a des réflexions qu'on n'avait pas et qui font plaisir à entendre et à partager. Et nous, on apprend aussi. Enfin, à chaque fois qu'on fait une animation, on a l'impression que c'est nous qui allons donner du savoir aux jeunes. Pas forcément, on ressort d'animation. Parfois, on a autant appris que je pensais les jeunes. Et après, quand même, il ne faut pas nier qu'il y a une parole masculiniste qui est présente et qu'on entend quasiment, pas systématiquement, mais presque dans toutes les classes. En fait, ça dépend quel sujet on va aborder, mais si on aborde la question des violences faites aux femmes et aux minorités de genre ou les questions LGBT, là, c'est quasiment sûr qu'on va avoir des propos masculinistes anti-LGBT. Par contre, si on n'aborde pas ces questions-là et qu'on reste sur l'égalité, le salaire, etc., là, on ne va peut-être pas les avoir, ces discours-là. Mais ça reste une minorité qui se fait beaucoup entendre, encore une fois. Il faut quand même faire attention à cette minorité.
Ouais, alors je fais à peu près le même constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans des classes, je vois des jeunes, alors de tous les âges, hein, puisqu'on intervient effectivement dès la maternelle jusqu'à post-bac, qui ont des fois des réflexions hyper pertinentes, hyper éveillées, où je me dis, mais j'étais tellement loin de ça à 15 ans que ça fait vraiment plaisir. Et à côté de ça, effectivement, des fois, on a des classes scindées en deux, avec l'autre côté qui, au contraire, tu parlais de polarisation tout à l'heure, revient un peu sur des espèces de valeurs traditionnelles qui peuvent faire un peu peur. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup la notion de modèle. En fait, les jeunes comme les moins jeunes, hein, comme nous aussi, on apprend au quotidien et on apprend par imitation. Hein, le petit humain apprend par imitation. Donc, à partir de modèles. Et en fait, selon les modèles qu'on voit et qu'on a vus, et d'où l'importance de la littérature jeunesse pour apporter d'autres modèles, eh ben, ça va développer des choses différentes. Aujourd'hui, des fois, sur les réactions qu'on voit, et ça a dû t'arriver aussi, Marielle, il y a le modèle des hommes célèbres et charismatiques contre qui il y a eu une plainte. et où ça s'est avéré être classé sans suite, ou etc., etc. Et alors ça, c'est un argument qui nous arrive dans les dents très régulièrement quand on aborde les violences, parce que du coup, de façon, on le sait, la plupart des femmes, elles mentent quand elles portent plainte.
Et ça, c'est vraiment l'argument 2024.
Hein. Ah, ça, c'est...
Ah ouais.
Ah, oui. 2025, du coup. Mais...
24-25.
25-24.
Mais en fait, ça a commencé en septembre 2024. On a commencé vraiment à voir cet argument.
En fait, le procès Johnny Depp Amber Heard a été une catastrophe. Et en plus, pour le coup, on parlait tout à l'heure de l'information bien organisée. Mais là, en termes de manipulation de médias de masse, ça a été un procès bien costaud. Je vous invite vraiment à regarder La Fabrique du mensonge. Et bien non, ça a une répercussion partout.
L'homme pâle, c'est le dernier.
Ouais, Benjamin Mendy,
c'est catastrophique pour la parole de la femme.
D'accord. Benjamin Mendy, les rugbyman, Mbappé, il y a eu un truc, il y a eu Norman fait des vidéos, il y en a tout un paquet, et il y a tout de suite ce truc de carrière brisée, etc. Et en fait, on va nous lancer dans les dents que de toute façon, la plupart des femmes mentent. Mais si, je le sais, c'est au moins 90%. Alors, ils sont toujours très bien renseignés dans ces cas-là, ils ont des super chiffres.
Et puis les hommes qui ont été condamnés récemment, je pense à Christophe Ruggia, je pense à Roman Polanski aussi, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt quand même international, ce qu'on oublie. Ouais. Ça, bizarrement, j'ai l'impression que ça passe un peu à la trappe.
C'est moins leur génération. C'est ça aussi. Tu vois, le montage qui est fait, c'est qu'ils s'appuient sur ceux
sur
qui
les modèles, sur les modèles de leur père.
De qui ils se sentent proches. Hein, d'où, effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut faire attention à ces modèles et à cet effet de mimétisme. D'où l'intérêt. Alors que dans le milieu enseignant, il y a quand même beaucoup de femmes. Donc c'est ça un peu qui est paradoxal. Mais c'est pas aux enseignants qu'on se réfère. Et c'est pas non plus souvent dans la sphère familiale, parce que là aussi, parfois, il y a des problèmes avec maintenant une absence de papa ou des choses comme ça. Et donc, il y a vraiment un problème au niveau du modèle et d'accompagnement. Voilà. Tout à l'heure, quand je parlais des écrans qui pouvaient être dangereux, je dis simplement qu'il faut faire attention parce qu'il faut accompagner. Il y a un enfant derrière un écran, que ce soit la télévision ou les réseaux, il y a besoin d'accompagnement, forcément.
Après, juste pour nous, souvent, ce qu'on donne comme argument quand les personnes nous disent les femmes mentent, on demande toujours aux personnes qui sont présentes à l'animation, est-ce que c'est facile de parler des violences sexuelles qu'on a subies? Est-ce que régulièrement, quand on a vécu une violence sexuelle, on trouve facilement quelqu'un pour le dire, puis on n'a pas honte, puis on va aller devant la justice parce qu'on sait que ça va bien se passer, puis on va aller porter plainte et on sait que ça va bien se passer. Mais voilà, on sait très bien que c'est très rare de réussir à trouver quelqu'un de confiance pour parler des violences sexuelles qu'on a vécues. Et du coup, on leur dit, alors comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui mentent en inventant des violences sexuelles qu'elles n'auraient pas vécues? Mais c'est tous des schémas. De toute façon, c'est des schémas de communication à déconstruire.
Bien sûr, et oui. Ils font appel à des agences de communication. Toutes ces personnes que vous avez citées qui arrivent devant la justice, ils ont un texte préétabli à lire. Allez, on va faire une pause musicale avec Mathilde. Tiens, pourquoi Mathilde? Parce qu'on va la voir en concert ce samedi.
On
va
parler
après la pause musicale, ni oui ni non. Et on revient juste après cette chanson.
Il y a des oui, il y a des non. Il y a des soirées au Terronchon. Il y a des palaces où il n'y a plus de place. Nos discussions où tu me lasses. Écoute-moi, regarde-moi. Pourquoi t'as pas confiance en moi? Quand je te dis et te répète que l'amour peut être une fête. Il y a des chansons et des passions. Et puis il faut payer l'addition. Il y a des faux pas et du fracas. Et ça retombe toujours sur moi. Moi qui t'admire, qui t'adore. Dans mes mirettes il y a de l'or. L'or de ton âme, l'or de ton cœur, arrête donc un peu d'avoir peur. Il y a des bonheurs et des dangers. Pourquoi vouloir tout contrôler? Laisse-toi vivre, laisse-moi ivre de tes regards, de tes baisers. Encore un peu, encore nous deux. Laisse-moi me perdre dans tes yeux. Où il y a des soleils et des tempêtes. Et celle qui t'a laissé en miettes, qui est rien qu'une peste que je déteste. Je veux pas qu'on te fasse du mal. Arrête de t'en faire toi. Pitié, crois-moi quand je te dis que tu vaux mieux que ça. Viens contre moi, viens dans mes bras. Laisse-moi te dire comme je te vois. Ni oui, ni non, je prends des décisions à la con.
Allez, on est de retour pour cette seconde partie d'émission. On va se concentrer, mesdames, s'il vous plaît. Donc, on en sommes pour parler de ce 8 mars et pour parler des droits des femmes de manière générale. Depuis 2 ans, Charlotte, vous êtes regroupée un peu en comité, en collectif, pour justement être ensemble plus forte et proposer plus de choses, c'est ça ?
Effectivement, depuis mai 2023, il y a un groupe de travail spécifique sur tout l'événementiel relatif aux droits des femmes et à l'égalité. On a trouvé une appellation, enfin Claire a trouvé une superbe appellation lors de la dernière réunion, co-égalitaire, pour dire comité territorial égalité, voilà, donc on est plutôt contente voilà, de ce groupe de travail qui est très dynamique, qui l'année dernière avait organisé un 8 mars autour du sport avec une quinzaine de partenaires. Autour du 25 novembre, la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes, là c'est pareil, on a fait à peu près un mois avec différents événements et là c'est reparti voilà, pour le 8 mars. L'avantage c'est qu'on peut aborder plusieurs thématiques, comme on le verra, que ce soit l'entrepreneuriat féminin, la lutte contre les violences, le sport, la santé. Enfin voilà, je vais pas tous les citer, sinon ça risque d'être un peu long. Et puis c'est vraiment une émulation avec plein de partenaires, que ce soit des administrations, des associations, des collectifs. Voilà, c'est extrêmement dynamique.
Voilà, parce que moi j'imaginais que c'était au niveau national, que les 8 mars durent un mois finalement et se focalisent pas sur une journée. Mais non, en fait, c'est départemental, ouais.
Donc ça se fait pas mal dans l'Aveyron aussi.
Ça se fait pas mal dans l'Aveyron. Ouais. Oui, ça peut se faire autre part, mais je croyais que voilà, c'était partout en France.
C'est des initiatives plutôt locales. Ouais. Nous, on commence à être... Enfin, voilà, on peut, je trouve, être fiers de ce qui commence à bouger sur le département de la Lozère. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Ça fait que quelques années, mais plus ça va, plus on sent qu'il y a une montée de tout ça, de solidarité, de sororité, de plein de choses. Et c'est quand même très appréciable de voir qu'on est ensemble.
Du coup, on va parler des droits des femmes, de cette égalité de différentes manières, festives, non festives, du cinéma, de la musique. Il y a un peu de tout qui va être proposé sur la Lozère. Ce week-end, ce vendredi et ce samedi, de gros temps forts. Il y en aura un autre au niveau du sport, on va pouvoir en glisser un mot. Tout d'abord, vendredi, c'était une manifestation qui avait été annulée à cause d'une tempête, je me rappelle, il pleuvait très fort. Et alors, ils annoncent encore de la pluie ce week-end.
Non,
il va
pas pour
faire
vendredi soir.
Ah, pas pour vendredi
ni
soir.
Ni samedi.
Ah, d'accord.
Voilà, ni samedi, ça c'est. Oui, ouais. Non, il va pleuvoir dimanche. Non, le samedi, il va pas pleuvoir.
Parce que je me dis, mais c'est le planning familial, c'est un chat noir en fait. C'est le chat noir.
Et non, les masculinistes sont très bien organisés. Ils font venir les tempêtes et la pluie.
C'est le complotisme.
Oui, l'année dernière, on avait eu une crue quand même pour le 8 mars, pour rappel. Donc, ce qui fait qu'en termes de mobilisation, ça avait été compliqué. Enfin, en tout cas, faire venir du public quand on a peur d'avoir une crue. D'ailleurs, je crois, Ludovic, que tu avais eu une crue chez toi.
J'avais une crue chez moi d'ailleurs, oui.
Un dégât des eaux.
Mais cette année, il fera beau, venez.
Ouais, alors, c'est 18h30 ou 19h vendredi
19h,
place Urbain 5, nuit féministe, pour honorer les victimes du patriarcat et les luttes féministes avec des prises de parole, de structures luttant au quotidien contre les violences de genre et les inégalités sociales. Donc, on se rappelle, la première, c'était l'an dernier, non, que vous avez fait un petit totem.
C'est bien plus... 4 ans, là, maintenant, qu'on fait ça.
D'accord.
20-25 novembre.
D'accord.
Parce que c'est pour la journée contre les violences faites aux femmes. Mais aussi le thé d'or, donc pour les personnes trans qui sont assassinées ou qui se sont tuées pour des raisons de discrimination. Et aussi le 20 novembre, c'est la journée contre les violences faites aux enfants. Donc
d'accord.
En fait, c'est pour 3 journées internationales qu'on fait ce rassemblement-là.
Alors, on explique que la lutte, c'est un combat tous les jours, c'est difficile. Il faut se rappeler, l'an dernier, vous mettez un petit totem, justement, pour rappeler tout ça. Il n'a pas tenu longtemps, Amande ?
Alors, la première année, il n'a pas tenu longtemps, puisqu'il a été détruit, vandalisé. Après, les autres années, les 2 autres années qui ont suivi, on n'a pas eu de soucis.
Ah, d'accord, il n'a pas
été
vandalisé.
Il avait été vandalisé dans la nuit, en plus, dès la première nuit.
Dès la première nuit.
En plus, c'était très beau, il avait neigé. Donc, il y avait les roses rouges qu'on avait fabriquées avec du papier crépon et ce monument aux mortes. C'était vraiment très beau, très cérémonial. Et le lendemain matin, tout était explosé. On aurait dit du sang, en plus. C'est en papier crépon, les fleurs. Donc, bon, voilà. On a quand même porté plainte, mais évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Mais oui. Comme,
après, si on a eu des inscriptions sur l'année qui a suivi, des inscriptions sur le monument aux morts contre les personnes LGBT. Voilà.
Voilà. Donc, ce que tu nous disais tout à l'heure, notamment ce qui est difficile.
Ce qu'on veut porter aussi au planning, mais pas que le planning, je sais que les autres assos aussi, c'est un 8 mars. Assez inclusif, qui ne prend pas en compte justement que les femmes cis. Souvent, on pense aux femmes cis, genre. Et nous, on pense aussi aux femmes trans, on pense aux minorités de genre, donc aux personnes trans, et aussi aux personnes qui ont des orientations sexuelles, qui ne sont pas l'hétérosexualité, qui sont stigmatisées et qui peuvent vivre des discriminations de genre. On peut parler de personnes sexisées plus largement.
Elles sont particulièrement visées en ce moment. dans nos sociétés occidentales. Mmh. Parce qu'ailleurs, elles n'existent pas. Dans celles des dictatures, on ne les voit pas. Elles n'ont pas droit.
Elles existent, mais on ne les voit pas où elles sont réprimandées. Mmh.
Donc du coup, c'est à 19h, on se retrouve sur place.
Il y aura des prises de parole de Charlotte Simon, notre déléguée, mais aussi du CRI, du collectif Révolte Inceste, et de RESF, donc le réseau Éducation Sans Frontières, puisqu'on a voulu un peu mettre la focale sur la question migratoire et sur les enfants cette année. Et après, le planning prendra la parole, mais pour lire un texte de Preciado, un philosophe, vous verrez, vous découvrirez le texte. Et ensuite, y aura la lecture des noms des personnes assassinées ou qui ont été tuées, donc des femmes et des personnes trans, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Du coup, donc il y aura la lecture de ces noms-là, puis avec une petite cérémonie avec des fleurs. Et ensuite, il y aura aussi des chorales qui vont chanter. Deux chorales, la chorale autogérée et la chorale de...
Hispaniac.
Ouais, qui s'appelle...
Les petits cailloux.
Voilà, exactement. Et ensuite, on va pouvoir manger, boire ensemble un petit coup, et puis discuter, échanger, créer des solidarités, des liens, faire des ponts entre nous. C'est aussi pour ça, le 8 mars, je pense. Mmh. Et donc, juste, ça sera situé sur la place... de la cathédrale.
Urbain 5.
Urbain 5, voilà. Heureusement qu'il y a des gens qui me soufflent. Et voilà, donc on sera entouré de plusieurs institutions. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce lieu-là pour faire notre 7 mars. 8 mars.
25, 8 mars, 20, le 7. Le 8 mars, ça se poursuit à partir de 14h. Donc il y a plusieurs organisations, hein, syndicales, associations, citoyens qui se regroupent eh bien, au Square Émile Joly, à côté du théâtre, parce que le soir, il y a le concert de Mathilde dont on va parler. Nathalie, vous organisez une guinguette de l'égalité. Qu'est-ce que c'est exactement alors ?
Alors on a un petit peu réduit le titre, parce que si on avait été respectueux, on aurait dit égalité de genre. Mais on voulait que ça claque un petit peu, donc on a fait plus court. L'idée, c'est aussi d'organiser collectivement, c'est-à-dire co-organiser, un temps d'information, de revendication, parce que le 8 mars, c'est aussi ça, mais dans un cadre festif. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses graves, on peut revendiquer tout en le faisant dans la joie, parce qu'on n'est pas obligé d'être triste, déjà qu'on subit des choses qui ne sont pas drôles. Si en plus, on le fait de façon austère, on va faire peur aux gens. Et l'idée, c'est au contraire de montrer qu'on a des choses à dire, qu'il faut venir avec nous, et ça va se passer dans un cadre festif. Il y aura de la musique, il y a trois groupes féminins, pour le coup, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand même, la scène musicale est quand même très, très masculine en général. On parlait aussi des aides, des prix, tout ça. C'est plutôt les hommes qui sont à l'honneur en général. On aura un affichage sur cette thématique-là, le 8. Et l'idée, c'est effectivement de donner la scène à des femmes, comme ce sera le cas le soir. Donc, il y a la chorale de Sophie Bélizin, il y a un mystique poétique, il y a un groupe de rap de Floraco parisien, puisqu'il y a une des chanteuses qui descend de Paris. Et il y a Laura Chapler avec son violon. Et pareil, la chorale La Roumègue avec quelques chants féministes. Voilà, on a envie de faire la fête, hein, autour, tous ensemble surtout, de sensibiliser ceux qui peut-être pourraient penser que le féminisme, c'est pas drôle, c'est juste pour rouspéter et embêter. Eh ben non, le féminisme, c'est quelque chose qui se vit au quotidien déjà, et le 8 mars, on met une focale. Parce que c'est ça aussi la difficulté. Pourquoi un jour ? Mais non, c'est pas un jour. En tout cas, ceux qui sont autour de la table, c'est toute l'année qu'ils se battent pour que ça aille mieux, pour que ça soit. On ait une société plus égalitaire. Et ce jour-là, on le fera dans la joie.
À noter que le jeudi aussi, hein, de 13h30 à 17h, non, pas du tout. Le jeudi à 20h à Saint-Enimi, vous faites une projection de l'affaire Nevanka suivie d'échanges. Hein,
voilà, c'est ça, la demande de Cineco et du foyer rural de Saint-Enimi. On va intervenir en ciné-débat, comme on l'avait fait à Mende. Ce film s'est d'ailleurs projeté le lendemain à Florac.
Et à Hispaniac aussi, enfin voilà, dans plein de communes. Et c'est vrai que sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde politique, c'est un film très, très pertinent que je vous recommande. Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, toujours sur les recommandations, on avait fait une super émission il y a 2 ans sur Femmes et Musique, justement pour faire écho à ce que disait Nathalie, avec notamment des données chiffrées, mais aussi une autrice-compositrice, enfin voilà, qui était très, très intéressante. Je pense qu'elle est toujours d'actualité, s'il y en a qui veulent aller la réécouter.
Voilà.
Sur juste un petit détail, si jamais le temps n'est pas avec nous, parce qu'on nous souffle que la tempête pourrait revenir encore cette année, alors, c'est pas la tempête féministe, même si je pense qu'on l'aura toute, l'envie de cette tempête féministe, il y a possibilité de repli à l'anti-rouille. On a déjà tout organisé pour que cet événement, malgré le mauvais temps, puisse quand même se tenir. Mmh. Donc voilà.
Malgré le mauvais temps, vous serez toujours le CIDFF, bien sûr, au camp de Rieucros pour déposer une gerbe.
Bien sûr, ça c'est l'inratable, c'est tous les ans, donc c'est très important pour nous cette commémoration-là. Donc c'est important, c'est le devoir de mémoire, hein, on en parle souvent du devoir de mémoire. Et donc effectivement, il va y avoir un dépôt de gerbe comme tous les ans et un discours, donc à 16h30 au mémorial du camp de Rieucros. C'est très important de se souvenir de cet endroit où ont été enfermées beaucoup de femmes, parce qu'elles étaient des femmes. Et on a communiqué dessus il n'y a pas longtemps, et en fait, on a eu des commentaires. Tiens, je ne savais pas, je suis lozérien depuis très longtemps, je ne savais pas que ça existait. Donc c'est important de continuer à venir tous les ans, de continuer d'en parler tous les ans, parce qu'il y a un peu ce réflexe des fois de c'est ce qui se passe ailleurs et pas chez nous. Et bien en fait, là, concrètement, on a un lieu en Lozère où il s'est passé quand même pas mal de choses autour de ça. Donc c'est important d'en parler. Donc bien sûr, on y sera, comme chaque année, à 16h30. Faites une toute petite pause, venez nous voir sur la stèle et revenez à la guinguette juste après.
Et effectivement, pour Octobre Rose, bon, grâce au CIDFF, j'avais découvert le camp de Rieucros. Et en Octobre Rose, on a fait une marche avec des femmes chefs d'entreprise. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mondoises qui ne connaissaient pas du tout le camp de Rieucros. Et toujours sur l'optique devoir de mémoire, et notamment animé par le CIDFF, il y a madame la députée de la Lozère, Sophie Pantel, qui organise un moment de commémoration autour d'Yvonne Guinguely, qui était juste parmi les nations, castanée écultrice, et qui a sauvé des enfants juifs grâce à un châtaignier. Donc ça sera en effet le 8 mars matin, sous réserve de la météo, sur invitation par contre, mais ça me semblait important quand même de le pointer, parce que moi je l'ai découvert en fait.
Ouais, elle cachait les enfants dans un tronc d'arbre, et elle a sauvé plein d'enfants juifs comme ça.
D'accord, un châtaignier, j'imagine.
Oui, c'est tout ça. À fait. C'est un immense châtaignier.
Un gros châtaignier. Et on voit encore, a priori, alors je n'y suis pas encore allée, mais on voit le grand creux, l'arbre creux où ont été sauvés un tas d'enfants juifs.
C'était où ?
Au col de la Baraquette, a priori.
Au col de la Baraquette, oui, c'est ça. Ok, ben, j'irai voir aussi, c'est intéressant. Mathilde, vite, Mathilde, qui vient en concert. Dis-nous en deux mots.
On l'a dit, on voulait que ce soit un 8 mars et un 7 mars du coup festif, qui mettent en lien. Donc c'est pareil, on a voulu cette année, avec toutes les infos un peu moroses des fois qu'on entend, on a voulu organiser quelque chose. Déjà, on voulait marquer le coup, de faire un gros truc, et puis on voulait quelque chose de très festif. Donc on a fait venir Mathilde, parce que pour nous, Mathilde, ça représente, elle représente beaucoup de choses par rapport au message qu'on porte, ne serait-ce que parce qu'elle est, parce qu'elle communique, par sa prestance. Mathilde, c'est une femme qui lutte contre plein de discriminations différentes. Effectivement, le sexisme, les violences, la grossophobie, le validisme, etc. Elle est sur beaucoup de fronts. Elle, c'est sa came, l'égalité aussi. Et ne serait-ce que ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle, elle est une femme qui s'assume, qui s'exprime et qui est comme elle est, et qui revendique d'avoir le droit d'être ce qu'elle est, et qui, malgré toutes les attaques qu'elle se prend, toutes les cyberattaques et le cyberharcèlement qu'elle vit depuis quelques années, reste ce qu'elle est et reste, un modèle féminin hyper intéressant. Et pour l'avoir vue en concert, hein, du coup, on est allé la voir à Tours pour venir la ramener dans nos bagages à Mende. C'est un concert qui est super agréable, qui est très fort, qui est plein d'émotions. Et puis, elle a une voix incroyable. Elle a beaucoup étudié le chant, elle a fait du gospel, elle a fait beaucoup de choses. C'est une vraie cantatrice. Donc, ça va allier vraiment des moments de musique très forts, autant que des paroles. Elle a des textes qui sont très impressionnants. Donc, on espère vraiment que ça va bien se suivre avec la guinguette de l'égalité, où on sera aussi sur un stand. Et le but du jeu, c'est vraiment de fédérer, hein, on l'a dit tout à l'heure, de faire du lien, d'être ensemble et de vivre des belles choses ensemble.
Voilà, vous pouvez déjà prendre vos places, hein, c'est à 20h30, à l'office de tourisme, il y a sur le site de CDFF, il y a un lien aussi pour le prendre sur Eloasio, ou sur place, si vous arrivez, il y a une première partie des chorales encore.
Il y a, oui, effectivement, donc, la première partie, c'est une chorale qui vient de Florac, qui s'appelle Voix partagée.
Voix partagée, week-end chorale, hein.
Week-end chorale.
Bon, écoutez, pour ceux qui aiment, vous pourrez passer pendant 2 jours et rester sur place. Claire, merci beaucoup. Je crois que tu as un rendez-vous à 13h30.
J'interviens dans un autre établissement scolaire.
Voilà, bon, mais j'espère qu'on t'a bien fait réviser. Comme ça, tu seras parfaite pour ta
intervention. Je serai au top.
Au top. Merci beaucoup. De toute façon, on est presque à la fin. Il reste 5-6 minutes, mais on peut-être appuyer encore sur quelques points. Charlotte, je ne sais pas si tu as des données, notamment notamment on avait parlé de l'INSEE ou autre.
Alors, du coup, j'étais plutôt partie sur d'autres événements, si c'était OK.
Bien sûr.
Alors quand même, je voulais mettre en lumière qu'il y a la gendarmerie qui organise une journée à destination de femmes victimes de violences, de reprise de confiance en soi, en lien avec le CIDFF, voilà, qui aura lieu le 13 mars, qui est là et sur inscription. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, soit se rapprocher du CIDFF ou de moi ou de la gendarmerie pour avoir plus d'infos. Et puis, il y a aussi tout le secteur sportif, en fait, qui se mobilise quand même autour du 8 mars et dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, ça me semblait important de le signaler avec une soirée de sensibilisation le 24 mars dans le sport Zéro Tolérance pour les Violences, voilà, qui sera suivie d'une campagne départementale d'affichage et sur des événements plus grand public. Le 1er avril, il y a la diffusion... Non, c'est pas le 1er avril, pardon. C'est le 29 mars. Il y a la diffusion du film Tatami au Trianon à Marvejols à 18h en partenariat avec le Judo Club. Voilà, donc quand il y a en plus des associations sportives qui se mobilisent, c'est important de le mettre en avant. Ça sera suivi d'un débat animé par un professeur d'histoire-géographie et le CIDFF. Puis le 7 avril, il y a la projection de Julie Seté. Voilà, suivi d'échanges, pareil, avec le service départemental Jeunesse, Engagement et Sport. Madame
toujours
Denis, qui est...
Sport, voilà.
Donc ça me semblait quand même important de signaler ces deux événements assez importants. Puis au final, on est à plus de... à peu près une vingtaine d'événements sur le mois, avec une quinzaine de partenaires différents. Voilà, donc avec une forte mobilisation.
Oui,
parce qu'on a parlé en effet de Marvejols. Il y a aussi quelque chose à Saint-Chély le 1er avril, par le collectif, la projection du film Croquante. Et il y a également beaucoup de choses à Langogne. Il y a une semaine du droit des femmes à l'espace Calipolis. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur page Facebook.
Voilà, et dans nos informations locales, et aussi on reviendra la semaine prochaine sur ces actions, on va aller y faire un tour ce jeudi pour 48FM. Et bien sûr, toutes ces animations, on peut les retrouver hein, sur les différents sites internet. J'imagine sur la préfecture, le communiqué de presse doit être disponible.
Oui, tout à fait, il sera diffusé aussi dans les journaux papier éventuellement.
Oui, concernant le sport, il y a beaucoup d'animations, enfin beaucoup d'actions qui veulent parler des violences sexistes et sexuelles dans le cadre du sport. C'est vrai qu'actuellement, on en entend de plus en plus sortir. Voilà, c'est aussi un domaine qui est où la parole se libère. Très bien, merci à vous. Vous voulez dire un mot, Nathalie, pour clôturer ?
Non, on attend tout le monde très nombreux, quel que soit l'événement. Et si on peut amener d'ailleurs son petite sœur, son petit frère, les papis, les mamies, les tatas, les voisins. Il y aura vraiment de l'information, il y aura vraiment des échanges aussi, parce que ça, c'est important. En tout cas, c'est dans ce but-là qu'on espère qu'on aura le beau temps, parce que ça permettra plus facilement les échanges. Et quelle que soit sa vision du féminisme, on a sa place dans le combat pour l'égalité. Donc, tous ensemble, on va y arriver, on va faire changer ce monde.
Merci. Marielle ?
Merci pour l'invitation déjà sur ce plateau. Et nous, on a envie de dire un peu la même chose. Rendez-vous le 7 et le 8. Et aussi, je trouve qu'on a quand même de la chance en Lozère, là. Comme on a eu dit, on a réussi à se fédérer, à se lier les uns les unes les autres pour faire un 8 mars assez conséquent. Et j'espère que ça va durer et vive le féminisme. Et voilà.
Super, merci Charlotte.
Oui, merci beaucoup Ludovic, et je souhaitais saluer quand même tout le travail des associations, en effet, et des partenaires hein, associatifs, administratifs, force de l'ordre, qui quand même mènent toutes ces actions tout au long de l'année, voilà, pas que le 8 mars, c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour le 8 mars, mais il y a vraiment un engagement très fort toute l'année, et je voulais le saluer et les remercier.
Allez, on se quitte avec un nouveau titre de Mathilde qui s'intitule « Mon cœur ». À bientôt, cette émission sera rediffusée ce jeudi à 19h et également samedi matin, voilà, pour bien vous préparer à cette journée du 8 mars. Ciao.
C'est brisé mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Tu crois que je te vois pas, mon cœur, tu crois que je sais pas. T'as envie d'aller plus de moi, mon cœur, tu détruis mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur.
des privilèges, l'oppresse rassiège même jusqu'au dernier décor. La soumission ou la mort obligée de dénuder, obligée de faire bander, sinon t'es pas libéré. Toi, victime comme un con de cette manipulation, tu penses qu'à te rincer l'œil, à masturber ton orgueil, à coup de culture du viol, sexualisation folle, esclavage des sexes symboles. Sauf que moi je te connais, mon cœur comme si je t'avais fait. Mon cœur et tout ce que tu fais, mon cœur s'est brisé. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, tu crois que je te vois pas. Mon cœur, tu crois que je sais pas. T'as envie d'aller plus de moi. Mon cœur, tu détruis.